aujourd'hui à Rencontre Spirituelle, une émission spéciale. Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir, mon Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir? On se pose souvent cette question. La volonté de Dieu, où est-elle? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un problème que se posent les enfants, les adultes, les vieillards. C'est pas facile. On a presque l'impression que Dieu s'est dit, à un moment donné, et c'est là qu'on peut trouver peut-être un peu la volonté de Dieu, et j'avais tout fait pour faire de l'homme et de la femme quelque chose d'extraordinaire, pour les élever jusqu'à moi, puis assurer ainsi leur bonheur sur terre et durant l'éternité. Et pourtant, ils se sont détournés de moi. Alors, je vais faire un nouvel effort d'amour. Puisqu'ils n'ont pas voulu s'élever, eh bien, je vais m'abaisser. Jusqu'à eux. Je me ferai semblable à eux. Je me ferai semblable à l'homme. Je voulais en faire, en somme, une sorte de Dieu, quoi. Puis il a rejeté mon offre. Je me ferai homme, pauvre, petit enfant et souffrant, afin de lui montrer que je ne suis qu'amour. Et peut-être qu'alors, il va m'aimer. Peut-être qu'alors, il va comprendre qu'il ne peut trouver son bonheur terrestre et éternel qu'en moi. Oh, je l'aime tellement. Tellement plus que tout le reste de l'univers, de cet univers immense. Vous savez, cet univers immense, on nous en parle ces jours-ci, à la télévision américaine, à PBS, avec ce grand astronome. On nous montre qu'il y a des milliards de trilliards d'étoiles, qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies, que nous sommes dans une de ces galaxies perdues dans notre petit système solaire sur cette petite planète Terre. Et pourtant, c'est nous qui l'aimons. C'est une étrange décision, celle de Dieu, de venir ici. Ça éveille notre scepticisme même quand nous sommes chrétiens, que Dieu puisse s'incarner. Sainte Thérèse d'Avila avait des problèmes avec ça, elle, donc, qu'on fête demain. Je vous en parlerai un peu. Il y a tous les autres mystères de la religion qui paraissent inadmissibles. Mais il y en a d'autres qui sont... On peut les comprendre parce qu'ils ne dépassent pas, finalement, des objets d'ordre naturel dans lesquels nous vivons. Mais le mystère de Dieu fait homme, là, Dieu qui s'incarne et qui est en but à toutes sortes de mauvais traitements de la part de ceux qui l'a créé, quoi, nous, et qui meurt sur une croix comme un coupable, en sachant que pour beaucoup, bien, tout cet excès d'amour serait non seulement inutile, mais tourné en dérision, même, on s'en moque. Et voilà ce qui, semble-t-il, il me semble des fois, dépasse les limites du raisonnable. On comprend que, dès les premières prédications de saint Paul, la religion nouvelle qu'il exposait a été considérée comme un scandale, hein, souvenez-vous, mêler Dieu à nos faiblesses et à nos malheurs. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. L'abaisser au point d'en faire le jouet de ses créatures, ça semble impossible, mais... Heureusement, les idées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et si nous avions une plus juste conception de ce que c'est que l'amour, si nous n'avions pas galvaudé au fond ce mot-là, l'amour, faire l'amour, est-ce que c'est faire l'amour? C'est pas faire l'amour, c'est faire du sexe. Ça n'a rien à voir dans le mariage, dans la sanctification des choses, dans la tendresse profonde d'un amour vraiment vécu. On pourrait dire faire l'amour, monsieur. L'amour est galvaudé. Puis la chose est rabaissée à n'importe quoi. Si c'était pas comme ça, on pourrait peut-être rentrer plus facilement dans les vues de ce que Dieu a voulu. Qu'est-ce que Dieu a pu bien vouloir, hein? Peut-être nous est-il arrivé de découvrir jusqu'où peut aller l'amour humain. J'espère que oui. Je voyais hier à la télévision une femme qui n'avait jamais rencontré l'amour. Elle disait qu'elle n'avait jamais été aimée, que ses parents, ses grands-parents non plus, n'aimaient pas. Elle ne connaissait pas, ne voulait pas se marier. C'est terrible à voir. Pourtant, il me semble que tous nous avons rencontré, par exemple, une jeune fille, ou pour les jeunes filles, un jeune homme, qui avait toutes, on pourrait dire, les qualités requises, physiquement, moralement, pour fonder un foyer heureux, et pour voir cette personne renoncer à tout pour se consacrer, finalement, à un dépassement. On voyait de ces femmes autrefois qui sacrifiaient tout pour se consacrer aux soins d'une mère malade à domicile et impotente. Un amour qui dépasse tout. Ou encore, qui n'a pas vu une mère qui entoure de soins un de ses enfants qui est déshérité par la nature et qui est frappé de paralysie cérébrale ou même d'idiotisme, faiblesse du cerveau. Et depuis des années, bien cette femme se penche sur son enfant, elle est inquiète. Elle regarde le lit où repose son fils qui a peine à bouger, qui est paralysé. Il n'y a jamais un sourire, jamais un mot qui vient la remercier de ce qu'elle fait pour lui. Oui, il y en a comme ça, j'en ai déjà vu. Alors on dit, certaines personnes vont dire à cette mère de placer son enfant dans un établissement spécialisé, là, afin qu'elle puisse s'occuper davantage de ses enfants qui sont bien portants, mais elle refuse. On insiste en lui disant que son devoir est ailleurs, que ce malheureux enfant à qui elle prodigue des tas de soins ne remarquera même pas que c'est une étrangère qui, à compter de ce jour-là, dans l'institution, va s'occuper de lui. Mais elle dit cette mère-là ne peut pas comprendre ses raisonnements. Elle se sent la mère de cet enfant, puis cela lui suffit. Il y a une association à laquelle j'appartiens, et je tiens à en parler parce que c'est très important, c'est Emmanuel, l'amour qui sauve, dont le centre est à Drummondville, mais il y a aussi à Montréal des gens qui s'occupent de cette association. Il y a plus de 50 couples au Québec de jeunes de 30 ans environ, un peu plus, qui adoptent comme ça des enfants inadoptables. Des paralysés cérébraux, des spina bifida, des mongoliens, etc., ou des trisomiques, si vous préférez. C'est extraordinaire le dévouement. Ils les adoptent, leur donnent leur nom et en prennent soin 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils ont de l'aide, heureusement, de temps en temps, d'autres couples qui viennent les soulager un peu de temps en temps pour des vacances ou un repos. Mais pour que soit rendu possible dans des êtres créés, il me semble, la manifestation d'un tel amour, est-ce qu'il faut pas, me semble, que celui qui a créé tout ça soit souverainement amour pour les inspirer? C'est ça que Dieu nous demande, il me semble. Dieu veut cela dès lors. On ne peut pas discuter avec ce Dieu. On ne peut pas valoir toutes sortes d'autres raisons. Mais il faut écouter Dieu dans son étrange démarche. Il faut s'apercevoir que cette inutilité apparente pour beaucoup, c'est là qu'est le secret. Parce que là qu'il se révèle dans tout son amour à travers ces êtres qui prennent soin des autres. Et cela me suffit, moi, en tous les cas. L'Évangile le dit, un Dieu a tellement aimé le monde qui lui a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle et avoir la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut. Ou encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous vous souvenez du texte du prophète Isaïe? Oh, il y a longtemps. En temps des Juifs. Quand même les mères oublieraient, moi, Dieu, je ne t'oublierai point. Vois. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. C'est moi qui suis Yahvé, et il n'y a point de sauveur en dehors de moi. C'est moi qui efface les fautes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Or, le Christ, Dieu incarné, s'efforce et s'efforcera de nous faire saisir ce qui se passe dans le cœur de Dieu, ce que Dieu veut. En nous racontant la parabole de l'enfant prodigue, vous connaissez cette parabole si belle, hein? Ou en nous donnant le portrait du bon pasteur, hein, qui quitte toutes ses brebis pour aller chercher la, la 99e qui s'est égarée ou la 100e. Et saint Jean indiquera très clairement que c'est la foi en cet amour infini de Dieu qui est la marque du vrai disciple du Christ. C'est ça que Dieu veut que nous soyons. Avoir cette marque. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, ainsi dans l'épître de saint Jean, chapitre 4. Nous avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et pourtant, il faut bien l'avouer, nous avons bien de la peine à comprendre les intentions de Dieu, ce que Dieu veut. Parce que nous sommes égoïstes. Nous sommes repliés sur nous-mêmes. Nous hésitons à nous laisser emporter par ce courant d'amour qui vient de Dieu et qui traverse toute la création et qui doit nous jeter finalement en Dieu si nous n'y mettons pas d'obstacles. Et cependant, c'est là notre unique tâche, hein, croire à l'amour puis aimer. Et la liberté ne nous est donnée que pour cela. C'est ça que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut? Bien, être aimé librement. Et que nous croyons à son amour. Mais qui est donc ce Dieu qui est fou d'amour? Dieu nous dit le catholicisme est unique quant à sa nature. Et cependant, il y a en lui trois personnes. C'est très important. Et c'est la deuxième personne de cette Trinité qui est incarnée, ce qui créait des problèmes à Sainte Thérèse d'Avila, je vous le dis. Et à moi aussi, à bientôt. Mais c'est incarné pourquoi? Pour être la lumière du monde qui va nous éclairer dans nos ténèbres. Puis la preuve totale de l'amour que Dieu nous porte à tous, ce Dieu trinitaire. Remarquons tout d'abord que la religion catholique ne dit pas que trois personnes égale une personne. Ce qui serait absurde. Ça ne tiendrait pas debout. La foi catholique dit que la nature unique de Dieu est commune à trois personnes. D'ailleurs, je vous ai parlé de la Trinité le 15 avril dernier, mais j'y reviens parce que c'est fondamental, c'est au cœur de notre foi. Je vous rappelle, quand nous allons à la messe, l'Eucharistie, c'est un acte trinitaire. Hein? Nous allons là et nous nous plaçons en commun avec le prêtre autour de l'autel, finalement, pour honorer Dieu, notre Père, que nous prions. Et nous le prions par l'intercession de son Fils éternel, entre lesquels l'amour est éternel et infini, et qui est quelqu'un, l'Esprit Saint. Alors, appliqué à un être qui n'est pas un homme, mais qui est Dieu, le terme de personne ne peut avoir qu'un sens très spécial, et parler de choses divines en mots humains, pas facile. C'est toujours risqué, et c'est risqué depuis toujours. Hein? Maître Eckhart a développé ça très très bien en disant, quand je dis ceci de Dieu, c'est vrai, ce n'est pas vrai tellement, il est impensable de parler de lui, mais il faut bien en parler. On risque de tout mélanger, de tout confondre, c'est très délicat. Mais Dieu accepte cependant qu'on le nomme d'après les choses qui nous sont familières, mais la prudence est de rigueur. Et le catholicisme nous révèle donc que dans la nature de Dieu, il subsiste trois personnes qui ont la nature divine tout entière, mais, écoutez bien, qui ont cependant chacune quelque chose d'incommunicable, quelque chose de personnel qui les distingue l'une de l'autre, et tel est le mystère de la Sainte Trinité. Ce mystère des trois personnes distinctes, qui subsistent dans une seule et unique nature divine. Et le mot Trinité a été précisément forgé pour exprimer en même temps l'idée de un et de trois. Oh, ça semble bien compliqué tout ça. Mais vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer ça clairement, puis vous allez être passionnés, certains d'entre vous qui connaissent moins ça. Vous allez être passionnés par la Trinité. Nous sommes à la recherche de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir de nous, hein? Nous en sommes rendus à saisir rapidement un peu ce qui existe dans la Trinité, c'est l'amour. Et la raison peut prouver, je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs, l'existence d'un Dieu. Bon, un Dieu unique, indépendant, qui est là avant toute créature, avant le Big Bang, dont on parle de plus en plus à la télévision dans des grandes émissions sur l'univers que nous découvre le télescope Hubble. Cet univers immense qui a explosé il y a 10 milliards d'années davantage. Et on arrive toujours au mot création. Les savants le disent maintenant, création. Donc avant toute créature, il existe, il est le principe d'activité, puisqu'il a une nature. Mais la raison qu'on a dans le ciboulot, là, on se demande quelle peut être l'activité éternelle de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'on ignore que le jaillissement vital pouvait trouver en lui-même un terme, puis un objet aussi, un objet, puis un terme, c'est les philosophes qui parlent comme ça. Alors, ils ont imaginé diverses solutions. Il y a des philosophes qui ont posé en face de ce Dieu éternel un monde éternel, puis nécessaire, qui était le lieu de son activité, si on peut dire. Il y en a d'autres qui ont donné à Dieu un contraire, un principe du mal, un Dieu du mal, si vous voulez, contre lequel il avait à lutter. Il y avait donc une lutte entre Dieu et l'autre, l'anti-Dieu. Il y a un autre groupe de philosophes qui se sont mis à décomposer Dieu en autant de dieux, hein, que comptaient bon, tous ses attributs, le dieu de la bonté, le dieu de ci, le dieu de ça, afin d'introduire en lui le nombre, puis le mouvement, bon, puis ça les satisfaisait comme ça. D'autres, enfin, pour simplifier, puis ça, il y en a beaucoup, simplifier le problème, ils en sont venus à identifier Dieu et l'univers. Il y en a qui disent Dieu, ben, c'est l'univers, l'univers c'est Dieu. Ils sacrifient alors la personnalité de Dieu, l'activité de Dieu, parce qu'ils confondent tout ça avec l'univers lui-même. Et pour mettre un terme à cet tâtonnement, c'est le Christ qui nous a révélé un Dieu vivant. Oui, un Dieu vivant qui, tout en demeurant unique, n'est pas solitaire. C'est contraire, c'est différent du Dieu des musulmans et du Dieu des juifs. Notre Dieu n'est pas solitaire, le Dieu des chrétiens. Notre Dieu circule en lui un courant de vie, tellement intense que la même nature divine, une et indivise, ou indivisible, indivise, s'épanouit en trois personnes distinctes. Un Dieu qui, avant de faire déborder librement son amour dans la création, trouve en lui-même, dans les échanges réciproques et nécessaires de trois personnes, une activité éternelle, puis un éternel sujet d'amour. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il me semble que c'est clair. Là, j'essaie d'être clair, que de toute éternité, c'est l'amour qui règne entre les trois personnes, un seul Dieu. Le Christ, en effet, nous a parlé de son Père. Seul le Père connaît le Fils, et le Fils connaît le Père. Je retourne à mon Père. Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Puis il dit aussi, comme mon Père m'a aimé, ainsi je vous aime. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il dit aussi, comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Puis il nous a parlé du Saint-Esprit aussi. Il dit, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom vous rappellera toutes choses que je vous ai dites. Sommes-nous si conscients que ça, que l'Esprit Saint est toujours là, pour nous rappeler toutes les choses que Jésus nous a dites? Lorsque sera venu le Consolateur, l'Esprit Saint, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Voici que je fais descendre sur vous le promis de mon Père, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Il dit aussi, il s'est déclaré Dieu, Jésus, hein, au moment de quitter ses apôtres, il les investit dans des termes assez particuliers, il les investit de leur mission. Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, c'est la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Or, le Christ nous a donc révélé le mystère et la nature intime de Dieu. Mais l'homme ne se résout pas aisément à un pur mystère. On s'efforce évidemment de pénétrer un peu ce mystère de la Sainte Trinité, puis les explications que j'essaie de vous donner, ce sont pas des... toujours des données de foi, c'est très difficile. Ça vaut ce que vaut une hypothèse. Ne pouvant partir de Dieu lui-même, les théologiens catholiques partent de l'homme, et voici ce qu'ils enseignent. C'est pas bête. Puisque l'homme est doué d'intelligence et de volonté, et puisque Dieu a créé l'âme humaine à sa ressemblance, on sait ça, hein, ben Dieu doit posséder, il me semble, hein, en plénitude, l'intelligence et la volonté, hein, puisqu'il nous a donné ça, l'intelligence et la volonté, il doit l'avoir. Et dès lors, en suivant l'activité de son intelligence et de sa volonté, nous verrons apparaître en Dieu trois personnes distinctes et nous allons connaître sa volonté. Comme il est intelligence parfaite, ben Dieu a une connaissance parfaite de lui-même. Ça me semble c'est clair. Puis en tant qu'il se connaît parfaitement, ben Dieu engendrant lui-même, écoutez bien, une idée divine, une pensée divine, qui a tout ce que Dieu est et qui est nécessaire autant que Dieu lui-même. Et puisqu'en Dieu tout est Dieu, bien, cette représentation de Dieu qui jaillit en lui là, par l'activité de son intelligence, possède la plénitude là, de la nature divine, puis elle est éternelle, et dès lors nous devinons déjà deux personnes en Dieu. Deux personnes, le Père et le Fils, deux personnes qui possèdent la nature divine tout entière, mais qui ont chacune quelque chose de particulier, d'incommunicable et de personnel. Ça peut sembler compliqué à certaines personnes, mais disons, si vous réécoutez ça, si vous l'avez enregistré, vous allez peut-être mieux comprendre certaines personnes. Je suis sûr que beaucoup comprennent très clairement, parce que c'est pas si compliqué, finalement. Alors, l'intelligence, un Dieu en tant qu'intelligence parfaite, engendrant en lui-même sa propre image, il y a ceci de distinctif qu'il n'y a pas d'origine, puis qu'il se donne de toute éternité. Et la nature divine, avec cette note-là distinctive, unique, constitue une personne divine que nous appelons Père, puisqu'elle a ceci de particulier qu'elle engendre. Puis la pensée engendrée en Dieu par l'intelligence divine a ceci de particulier qu'elle reçoit de cette intelligence tout son être. Elle est le fruit de l'activité connaissante de Dieu. Puis la nature divine, considérée avec cette note distinctive, là, de relation à l'égard de l'intelligence divine, constitue une personne divine que nous appelons Fils, puisqu'elle est engendrée. Puis vous voyez que il y a un seul et même élan d'amour qui pousse donc le Père et le Fils l'un vers l'autre. Et le Père aime parfaitement la perfection qu'il connaît dans le Fils. Puis le Fils aime parfaitement celui qui l'engendre. Puis cet élan est unique, car l'élan d'amour, là, le Fils l'a reçu du Père. Puis il est commun aux deux, cet élan d'amour. Cet élan d'amour unique, cette aspiration réciproque qui procède du Père et du Fils est en Dieu. Et donc, il est Dieu. Cet élan d'amour, il a toute la nature divine, mais il a ceci de distinct qu'il procède du Père et du Fils. Bon, les orthodoxes disent qu'il ne procède que du Père. Et la nature divine, considérée avec cette relation d'élan, là, d'aspiration, d'amour unique qui unit le Père au Fils, puis le Fils au Père, c'est ça qui constitue une nouvelle personne divine que vous avez devinée et que nous appelons le Saint-Amour ou le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, on lui donne toutes sortes de noms, hein. Le souffle, l'aspiration, l'élan d'amour. Oh, des petites explications que je viens de vous donner, qui sont celles des théologiens catholiques, ça fait deviner comment il peut y avoir trois personnes dans ce Dieu nécessairement unique. Il faudrait que vous lisiez des livres là-dessus ou des essais plus longs. Je vais trop vite, hein. De toute façon, c'est pas sans raison que Dieu nous révèle ses mystères. Ce serait ridicule d'y voir des épreuves qu'il impose à notre bonne volonté. Ce sont pas des murs de briques contre lesquels il veut briser nos intelligences. Non, la révélation d'un mystère, de la Trinité en particulier, ne peut être qu'une marque d'amour que Dieu veut que nous connaissions. Dieu veut cela. C'est une marque d'amour de sa part. C'est une source d'enrichissement pour notre vie. Et le mystère de la Sainte Trinité nous révèle précisément, je dirais, la vraie nature de Dieu qui est d'amour, et est amour, 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 Deus caritas est, hein, quand on chante en latin. Dieu est amour, c'est Saint Jean qui le répète. Hein. Puis au sein de la divinité se produit un échange éternel. Hein. Le Père se donne et aime, le Fils reçoit et aime. L'Esprit est le courant d'amour qui jaillit du Père au Fils et du Fils au Père. Je termine cette demi-heure en répétant cette phrase. Au sein de la divinité, au sein de Dieu, se produit un échange éternel. Le Père se donne et aime. Le Fils reçoit et aime. L'Esprit est le courant d'amour qui jaillit du Père au Fils et du Fils au Père. Nous verrons tout à l'heure la suite. J'espère que vous comprenez parce que c'est si beau. C'est au cœur de notre foi. Et c'est au cœur de notre être et au cœur de notre cœur et au tréfonds de tout notre être, cette habitation de la Trinité. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir? Nous sommes rendus dans des sommets un peu terribles, mais très beaux, très très beaux, qui sont au cœur de la foi catholique, de la foi chrétienne, la Trinité. Oui, je viens de vous dire que le Père se donne et aime. Puis le Fils reçoit et aime de toute éternité. Puis l'Esprit, c'est le courant d'amour. Ce courant d'amour qui jaillit du Père et au Fils et du Fils au Père de toute éternité. Et dès lors, ce flot infini d'amour a débordé. Il a débordé librement. Dans une création, il y a 10 milliards d'années et plus. Dans une création fantastique, appelée à nous porter, nous, sur cette terre. Petits êtres de rien perdus, dans des milliards de galaxies. Et nous sommes les êtres, objets de son amour. Cet amour éternel déborde de nouveau, depuis 2000 ans, dans une œuvre d'amour fantastique, qu'est la rédemption, ou si vous voulez la libération, ou si vous voulez l'illumination. Dieu, en s'incarnant, a dit bien, « Je suis la lumière ». C'est normal que cet amour éternel déborde sans cesse depuis lors, dans le monde où nous vivons. Si on se rend compte que nous sommes enveloppés d'amour, nourris de cet amour, comment nous en étonner? Comment nous étonner aussi que, comme nous sommes des enfants de l'amour, notre vie soit commandée par l'amour, pas par la crainte, la peur et l'angoisse. S'il y a angoisse et crainte, c'est la crainte de blesser cet amour. C'est la peur de faire de la peine à un amour si grand. Comment nous étonner enfin que Dieu soit seul, le terme ultime? Dieu seul est le terme ultime. Il n'y a que lui que l'on peut vraiment aimer. Il provoque toute notre activité. Le mystère de la Sainte Trinité nous éclaire sur les mobiles de Dieu, ce que Dieu veut. Il nous fait mieux comprendre la création puis la rédemption. Il explique aussi comment le Christ, tout en étant Dieu, pouvait être envoyé par Dieu, et comment, après l'ascension du Seigneur, Dieu continue à agir par l'Esprit Saint, Esprit d'amour, sur notre terre régénérée. Ils sont indivisibles. Là où est le Père et le Fils, là où est le Fils et le Père, hein, Jésus le dit bien à Philippe. Tu veux voir le Père, regarde-moi. Là où je suis est mon Père. Aussi, toute la liturgie catholique est-elle imprégnée de ce mystère central, ce mystère fantastique de la Trinité que nous ne connaissons pas et dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis. Ce mystère central duquel, finalement, bon, jaillir et jaillissent toujours tous les autres mystères, hein. Nous sommes baptisés dès notre jeunesse, notre naissance, pour la plupart d'entre nous, au nom de la Sainte Trinité. Le signe de ralliement des chrétiens, c'est quoi? C'est le signe de la croix, par lequel le chrétien déclare agir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'aime bien ces prêtres qui, au début de l'Eucharistie, disent « Nous sommes rassemblés ici ». Tous ensemble, dans l'amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà, ça nous plonge dans le mystère trinitaire et dans notre action eucharistique. La plupart des prières de l'Église s'achèvent d'ailleurs par ce qu'on appelle une doxologie, si vous voulez, une invocation à la Sainte Trinité. Puis le credo, le « Je crois en Dieu », ça rassemble les dogmes autour des diverses personnes de la Sainte Trinité. Puis ces beaux Te Deum que nous, on ne chante plus, mais que hier, Jean-Pierre Noiseux nous a fait entendre plusieurs fois, dans différentes versions, le grand chant du Te Deum. Est-ce que c'est beau? Avez-vous déjà lu la traduction française dans un vieux missel? Alors, c'est un hymne de reconnaissance qui est chanté dans les cérémonies officielles autrefois. De louange à la Sainte Trinité. On devrait chanter ça encore en français, me semble. Puis enfin, il y a des milliers de martyrs qui sont morts pour proclamer ce mystère. Comment ils sont morts? en prouvant l'amour par l'amour. Ça se prouve l'amour par l'amour. Et voilà ce que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut, que nous prouvions l'amour par l'amour. On ne prouve pas Dieu par des raisonnements. On prouve Dieu par l'amour. C'est les saints qui nous donnent les exemples de cet amour. Éprouver l'amour par l'amour, c'est ce que le Fils éternel de Dieu est venu faire. Il fait toujours au sein de son Église. Il n'est évidemment plus question de nos jours de chercher à prouver ici la réalité historique du Christ. Bon, je passe par-dessus, de nos jours, aucun historien sérieux met en doute Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a des auteurs païens qui, sans le moindre sympathie, nous signalent l'activité du Christ ou celle de ses disciples au premier siècle de notre ère. Le Christ s'est bien incarné. Et en tous les cas, il y a eu un Jésus. Il y a eu Flavius Joseph, l'historien juif, qui nous parle indirectement de ça. Il est mort en l'an 100. Bon, il a vécu au premier siècle. Il est né à peu près au moment où Jésus est mort. Il écrit Albinus, le procurateur romain, là. Albinus étant encore en route, Anne, l'un des cinq fils du grand prêtre Anne était un nom d'homme à l'époque, réunit le Sanhédrin en conseil judiciaire et fit comparaître devant lui le frère de ce Jésus surnommé le Christ. Son cousin, quoi. Jacques, probablement. Il s'agit de Jacques, n'est-ce pas, de la parenté de Jésus. Puis le terme « frère », on le sait, avait chez les Juifs un sens beaucoup plus large que dans notre langue. C'est encore comme ça en Afrique. Je me souviens d'avoir rencontré des gens qui me disaient « j'ai mon frère qui est rendu à Montréal ». Ils n'étaient pas le même nom, c'était même pas parents, mais ils étaient du même village. Ça désigne donc dans le temps aussi bien les cousins que les enfants d'une même mère. Et puis dans la langue religieuse, ecclésiastique, aujourd'hui, son sens est encore beaucoup plus étendu, des frères. Bon, il y a une communauté de 100 frères. Ce ne sont pas parents. Son frère, spirituellement. Bon, c'est Pline le Jeune, aussi gouverneur de Bithynie, en Asie mineure, qui vers l'an 111, il adresse à son ami, l'empereur Trajan, une longue lettre. J'en lis un petit extrait. Niant qu'ils étaient chrétiens, quelques-uns ont offert de l'encens et fait des libations devant les statues des dieux. Certains vont même jusqu'à maudire le Christ, ce que, dit-on, on n'obtient d'aucun chrétien véritable. L'un ou l'autre prévenu a affirmé qu'il n'était plus chrétien depuis 20 ans, etc., etc. Puis il parle de Christus aussi, chanter un hymne à Christus comme à un dieu, dit-il. Puis il y a Suétone aussi. Ça, c'est en l'an 120. Il cite un événement qui se rapporte à l'année 51-52, donc, on peut dire à peu près 20 ans après la mort de Jésus-Christ. Claude, l'empereur, là, le fameux Claude, expulse de Rome les Juifs devenus, sous l'impulsion de Christus, on disait ça comme ça dans ce temps-là, une cause permanente de désordre. Il y trouve une cause permanente de désordre. Il dit, on infligea des supplices aux chrétiens. Jean a donné à une superstition nouvelle et maléfique. Puis le grand historien Tacite aussi vers l'an 115. Mais enfin, vous savez, c'est au sujet de l'incendie de Rome, là. Bon, il dit que le nom de chrétien leur vient de Christus, qui avait été, sous le règne de Tibère, livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate, etc. Ces documents, même s'ils sont pauvres d'informations sur la vie du Christ, me semble, ça suffit amplement à fermer la bouche, là, à tous ces fantaisistes, au sujet du mythe de Jésus. Il n'y a pas de mythe s'il a vécu. Ça nous prouve que, dès l'an 64, le christianisme était une puissance capable d'inspirer la haine et la crainte. C'est peu, puis c'est beaucoup, comme dit un auteur, le père Prat. Évidemment, à côté de ces témoignages d'historiens indifférents, il y a les témoignages abondants de ceux qui ont connu puis aimé le Christ. Vous les trouvez, bien, vous le savez, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et l'ensemble de ces témoignages, ça constitue ce merveilleux livre qu'on peut appeler le Nouveau Testament, dans lequel, je le dis pour ceux qui connaissent moins la Bible, des plus jeunes ou des incroyants ou des gens très distanciés, qu'est-ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui est la dernière partie de la Bible? Il y a l'Ancien puis le Nouveau Testament, on y trouve les évangiles, c'est-à-dire des quasi-vies de Jésus, des actes des apôtres. Ça expose les progrès de l'Église qui vient de naître après ce qu'on appelle la Pentecôte, quand l'Esprit-Saint s'est emparé des premiers catholiques, des premiers chrétiens. 21 lettres d'apôtres du Christ, différents apôtres, puis une œuvre très spéciale à la fin, c'est l'Apocalypse. Soit en tout 27 ouvrages d'importance inégale. Écrit, semble-t-il, en grec, la langue officielle de l'époque, mais on pense de plus en plus que bien des originaux étaient en hébreu ou en araméen. Il y a de grandes discussions depuis quelques années là-dessus. J'ai pas l'intention non plus de prouver, moi, la valeur des documents. On possède évidemment plus l'original de ces écrits. Pas plus que nous n'avons conservé l'original des œuvres de Virgile ou des lettres de Cicéron, c'est très important, ça. Saviez-vous ça? Il ne nous en reste que des copies écrites à la main, d'où le terme de manuscrit, c'est ça, un manuscrit écrit à la main. Avant le 4e siècle, les copies étaient faites sur des rouleaux. C'est des rouleaux, c'est très friable, c'est des rouleaux de papyrus. Et très peu de ces rouleaux sont arrivés jusqu'à nous. Bon, mais qu'il s'agisse de documents profanes ou religieux, et ce n'est qu'à partir du 4e siècle de notre ère que les scribes se sont servis là, de parchemin. C'était beaucoup plus résistant, les peaux de veau naissant. On a bien le droit d'être aussi exigeant, me semble, dans l'étude critique du Nouveau Testament que nous le sommes dans l'étude critique des œuvres profanes. En fait, saviez-vous que nous, catholiques chrétiens, nous sommes incomparablement mieux outillés pour prouver la valeur historique des écrits se rapportant au Christ. Je vais vous donner quelques exemples, qu'on en juge. De l'Écriture sainte, nous possédons bien plus que 4000 manuscrits. Alors que pour Eschyle, par exemple, il n'en reste que 15 manuscrits. Pour Tacite, il n'y a qu'un seul manuscrit. Nous possédons encore quelques fragments du 2e ou 3e siècle sur papyrus. On possède des manuscrits entiers sur parchemin du 4e et 5e siècle, soit à 2 ou, si vous voulez, ou 300 ans de l'original. Alors que, pour le grand philosophe Platon, philosophe grec, il y a entre l'original puis le premier manuscrit que l'on possède aujourd'hui, il y a un laps de temps immense de 1300 ans. Savez-vous qu'il y a 1400 ans de distance entre les originaux perdus puis les premiers manuscrits qu'on possède pour les textes de Thucydide, de Sophocle, de Schyle, d'Aristophane et pour Homère, le fameux Homère, 2300 ans? On pense pas assez à ces détails-là quand on attaque les évangiles en disant qu'on n'a pas les manuscrits originaux, yak à yak. Je suis fatigué d'entendre ça. Entre ces milliers de manuscrits de l'Écriture sainte, provenant de milieux très différents, puis écrits dans des langues très diverses, il y a un accord étonnant, c'est très important. On relève à peine 12 passages où le texte varie. Aucun, d'ailleurs, ne porte sur un point de dogme ou de morale, ni sur un fait historique valable. Vraiment, on peut dire que jamais texte ancien n'a offert autant de garanties. Ce n'est pas assez dit, ça. Puis, il n'est pas question que je vous fasse la vie de Jésus, je vais vous la faire le jour de Noël probablement, mais rien ne remplacera, il me semble, une lecture intelligente, sincère, et surtout affectueuse des écrits du Nouveau Testament, si vous voulez connaître ce que Dieu veut. Mais, il faut faciliter cette lecture, et pour la faciliter, je vous rappelle quelques notions, que vous connaissez d'ailleurs très bien déjà. Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle », il désigne le message apporté par le Christ aux hommes. Ce message est unique. L'Évangile est donc unique. Et ce message, le Christ a voulu nous le communiquer oralement. Il n'y a rien écrit. Et c'était nous indiquer clairement que son enseignement devait, à travers les siècles, se transmettre avant tout comme une parole, comme une vie. Quand on lit ces textes-là, il faut les lire comme une parole, comme une vie. Pas comme quelque chose qui nous ennuie. Il a dit explicitement à ses apôtres, « Allez, enseignez toutes les nations. » Il n'a certainement pas dû dire, « Allez, enseignez un peu toutes les nations, là. Soyez discrets. » Non. Il ne s'agissait pas de propager ou de commenter un livre. Il s'agissait pour eux de communiquer ce qui avait été entendu puis de faire aimer le Christ, ressuscité. Et cette bonne nouvelle nous a été communiquée par une autorité vivante, c'est celle du Christ. Elle devait se transmettre par une autorité vivante qui prolongeait la première, c'est celle de la communauté chrétienne ou de l'Église, comme je vous en parlerai un jour. Et c'est évident que le texte écrit pouvait avoir son utilité, puis même Il allait bientôt apparaître au sein de la communauté chrétienne. Il n'était pas là au début. Il n'y avait pas de Nouveau Testament au début du christianisme. Il n'était pas essentiel. Parce que dans la pensée du Christ, l'Église précédait toute Écriture. Et celle-ci ne devait être qu'un instrument, venu un peu plus tard, entre les mains de l'Église. Ce n'est évidemment pas ce que la plupart des protestants enseignent. Eux, ils établissent tout sur l'Écriture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient fait avant que l'Écriture soit écrite. Et aussi, voyons-nous les apôtres, après l'ascension du Maître, annonçant partout de vive voix la bonne nouvelle, rayonner la vérité, la charité du Christ, puis organiser l'Église naissante. Alors, qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir? Eh bien, on pourrait craindre que sans l'appui d'un livre, les premiers chrétiens ont pu involontairement altérer le message qu'ils avaient reçu. On peut se rassurer quand on pense à certaines choses avec l'abbé Delépierre, qui a écrit de très belles choses là-dessus. Il résume toute cette pensée que l'on retrouve un peu partout dans bien des livres. Il faut, pour douter de ce procédé de la transmission orale d'un message par la bouche, il faut ne pas connaître les civilisations de style oral. J'ai vu ça, moi, en Afrique. Des gens qui venaient nous racontaient de longues histoires qui duraient des heures. Ils savaient tout ça par cœur, de génération en génération. Dans les milieux où il y a la civilisation orale, où il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de papier, ils ne connaissent pas l'écriture, le grand moyen là, d'instruction, c'est la mémoire. Et celle-ci acquiert, la mémoire, un prodigieux développement. Bon, disons pour... c'est mon cas, je m'excuse... Je suis entré dans un monastère à 18 ans. Bon, à 19 ans et demi, je savais les 150 psaumes par cœur. Je pouvais les réciter. La mémoire est très forte à cet âge-là. Et à force de réciter des psaumes, même en latin, on les apprend par cœur. C'est extraordinaire, la mémoire. C'est une faculté que Dieu nous a donnée, qui est précieuse. Et la mémoire acquiert donc un prodigieux développement. Et de nos jours encore, c'est pas rare d'entendre, mettons, à Madagascar, ou bien chez les Berbères, en Afrique du Nord, ou parmi les Afghans, des récitateurs qui répètent sans hésitation des milliers de vers. C'est étrange, hein? Alors notre Seigneur, manifestement, a voulu se conformer à cette espèce de mode traditionnel et sûr d'enseignement. Puis il a préparé ses disciples à répéter ses leçons. De toute façon, évidemment, le temps est venu où Dieu lui-même a inspiré à des hommes d'écrire les points principaux de la bonne nouvelle. Puis l'autorité de l'Église... Puis sa priorité sur la parole écrite, et le Nouveau Testament, puis la Bible, était alors suffisamment établie. Puis d'autre part, un certain nombre de témoins du Christ avaient disparu, puis une seconde génération de disciples se levait, puis enfin l'Évangile gagnait les milieux païens, plus familiarisés là, avec l'écrit, les textes écrits. Puis on comprend dès lors que de divers côtés soient apparues des rédactions très fragmentaires, puis plus étendue du message du Christ, et quatre d'entre elles ont bientôt été reconnues, comme vous savez, par l'autorité de l'Église comme authentiques et inspirées, c'est-à-dire écrites sous la conduite de Dieu, conduite de l'Esprit-Saint. Elles constituent ce que nous appelons les quatre évangiles, c'est-à-dire quatre rédactions d'un évangile unique. Vous connaissez les auteurs, évidemment, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'on appelle des évangélistes. Après de vives discussions, mais les savants non catholiques s'accorde actuellement à faire remonter la composition des trois premiers évangiles avant l'an 70 de notre ère, puis la composition du quatrième, Saint-Jean, vers l'an 90. Et ces savants rejoignent ainsi ce que la tradition catholique a toujours enseigné. Les évangélistes ont une culture très différente et des préoccupations diverses. Ils ne s'adressent pas aux mêmes auditoires. Il ne faut pas s'attendre à trouver dans leurs textes une biographie complète de notre Seigneur Jésus-Christ, ni un exposé complet de son enseignement. C'est Saint Jean qui dit à la fin, en exagérant un peu, « Si on rapportait en détail tout ce que le Christ a fait, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qu'il faudrait écrire. » Or, les évangélistes se préoccupent très peu de la chronologie, puis citent en omettant tel ou tel événement de la vie du Christ, là, toutes sortes de détails. Et ça peut dérouter nos esprits modernes, mais ça donne aux évangélistes une spontanéité, me semble, une vie, une fraîcheur très caractéristique. Et c'est très juif tout ça. Hein? Il faut remarquer d'ailleurs que si Dieu avait voulu nous donner une biographie complète du Christ, il aurait dû inspirer quatre rédactions identiques mais c'est pas le cas. Pour bien comprendre les évangiles, il faut tenir compte que le Christ est apparu parmi nous, en un temps puis en un lieu déterminé. Lui qui voulait être parfaitement homme et s'insérer dans notre humanité, par amour. Il s'est présenté à nous comme un juif d'il y a 20 siècles. Et sa vie ne s'explique que c'est les replacer dans le cadre d'Isaïe. Dans le cadre d'Israël. Qu'est-ce qui se passait en Israël, en Palestine, dans ce temps-là? Mais son enseignement est conditionné, dans une certaine mesure, par les idées puis les coutumes des hommes de ce temps-là, au milieu desquels il a voulu paraître. Et quand on dit ça bien attentivement, on trouve ça très juif. Je me souviens d'un juif que j'avais interviewé à la télévision, Paul Misraki, auteur de quantité de chansons pour Réventura et ses collégiens, et toutes sortes de musiques de films, et qui nous disait que jeune, avait 27-28 ans, compositeur fameux déjà, il se promenait sur les quais à Paris, puis il avait aperçu les évangiles. Tiens, il dit, si je lisais ça. Il s'est mis à lire ça, mais il dit, mais qu'est-ce que les goyes, qu'est-ce que les chrétiens peuvent comprendre à ça? C'est tellement juif. Il s'est converti, il est devenu catholique. Il faudrait en particulier se souvenir que longtemps avant la venue du Christ, Dieu s'était choisi le peuple où il apparaîtrait. Il lui avait envoyé des prophètes, il avait préparé la grande révélation, puis le peuple juif, farouchement jaloux là, du dépôt que Dieu lui avait confié, est passé ainsi par toutes sortes de problèmes sans se mêler aux autres peuples. Il a été fidèle, puis il est toujours là aujourd'hui, ce peuple. Ils attendent toujours le Sauveur, le Messie. Ils discutent des textes messianiques. Et puis, on a vu que les Romains ont surveillé ce peuple indiscipliné. Hérode les a tyrannisés. Les Judéens montrent quelques dédains là, pour les Galiléens, etc. Mais replacé dans le cadre du temps, les pages d'Évangile s'animent. Les inquiétudes d'Hérode, là, la naissance de Jésus, du Sauveur, la réponse des prêtres qui sont consultés, toutes les scènes du temple, la discussion au sujet du tribut à payer à César, tout ça, c'est très intéressant à lire. Je vous signale ces quelques détails pour vous éveiller, pour éveiller votre curiosité, pour vous amener à lire d'excellentes études, me semble, sur tout ce qui concerne l'Évangile puis le cadre dans lequel ça s'est déroulé. Vous en retirerez une compréhension bien plus grande de ce que Dieu veut, du message, qui est un message d'une libération unique. C'est cette libération intérieure que Dieu veut. Une libération intérieure qui ne s'obtient qu'en donnant tout, en se donnant entièrement, en faisant que toute la place au fond de notre cœur soit prise par l'amour. Comment? En voulant ce que Dieu veut, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut habiter en nous, pour nous faire enfin vivre de son amour. C'est pas si compliqué. C'est simple. Il veut qu'on vive de son amour. Et quand on plonge, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, dans cet amour, on arrive au bonheur auquel elle a atteint. Elle, qui sera nommée docteur de l'Église dans quelques jours à peine, petite fille de 24 ans, morte il y a 100 ans. C'est bon pour nous aussi. Seigneur qui est tout amour, Jésus qui est tout amour, qui est venu nous révéler cet amour profond, immense, éternel, de la très sainte Trinité.